fin de la troisième journée de visite en Nouvelle-Calédonie pour François-Noël Buffet. Une journée placée sous le signe des entretiens avec les différents groupes politiques. On fait le point en début de ce journal. C'est Naya Wateu, élue les loyalistes à la province sud et au congrès, qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'occasion pour elle de revenir sur la visite du ministre ou encore sur le dossier des transports en commun. Marais a connu une nuit agitée. Plusieurs dégradations de bâtiments ont été signalées aux alentours de la tribu de la Roche et quelques incendies sont en cours dans le nord. On y revient dans ce journal. L'actualité sur le territoire, c'est aussi la reprise des croisières ce matin à Lifou. Plus de 100 touristes sont arrivés à Wedge dans un bateau australien. Un retour du tourisme qui fait du bien aux acteurs locaux. Côté sport, aujourd'hui se déroulait la grande finale du trophée des jeunes marins. 24 participants étaient en compétition et sur le podium, pas de jaloux, toutes les provinces sont représentées. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Un journal largement consacré à la visite ministérielle de François-Noël Buffet sur le territoire. Pour son troisième jour sur le territoire, le ministre des Outre-mer a enchaîné les rendez-vous politiques. Il reçoit les groupes du Congrès pour évoquer le but de son voyage et présenter la méthode de l'État pour la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Le ministre des Outre-mer a débuté ce marathon politique en recevant d'abord une délégation du groupe Les Loyalistes, Nicolas Legrand.
Oui, les loyalistes qui ont trouvé un ministre attentif, même s'ils estiment que les annonces au niveau économique et financier sont insuffisantes. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre la sécurisation de la Nouvelle-Calédonie et notamment du Mont-d'Or-Sud. Et ils ont aussi évoqué avec lui la reprise du dialogue. Les loyalistes plutôt rassurés à la sortie de cet entretien, déclare Gilles Brial.
On est rassuré sur le fait qu'on ait un ministre de l'Outre-mer qui soit un ministre de plein exercice, qui a décidé de s'impliquer dans le dossier calédonien, qu'un premier ministre qui a décidé de s'impliquer dans le dossier calédonien, ce qui nous change du gouvernement précédent où c'était géré pas par le premier ministre, et on a des besoins qui sont vraiment interministériels, et celui qui gère l'ensemble des ministères, c'est le premier ministre. Donc cet engagement nous rassure. Ce déplacement est quelque chose de positif, parce que ça a permis au ministre de l'Outre-mer de voir la réalité des choses. Et quand on est à 20 000 km de Paris, quand on a un commissaire qui demande davantage de moyens, par exemple en avril, pour sécuriser la Nouvelle-Calédonie, que ça ne lui est pas donné, il se rend compte des conséquences aujourd'hui, des conséquences économiques, sociales pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On a senti un ministre engagé. Il a dit qu'il allait passer du temps sur le dossier calédonien et qu'il n'avait pas l'intention de regarder les avions passer.
François-Noël Buffet s'est ensuite entretenu avec la délégation du groupe Rassemblement qui attend la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel, précise la chef du groupe, Virginie Ruffnac.
On a des annonces déjà de prise en charge à la fois des écoles, la reconstruction des écoles, des bâtiments publics. Mais au-delà de ça, nous, on a aussi dit que nous souhaitions le retour des discussions politiques et nous allions nous y engager pleinement parce que la prise en main par l'État de la reconstruction, de la réparation de la Nouvelle-Calédonie va de pair avec la prise de responsabilité de l'ensemble des élus locaux que nous sommes pour pouvoir proposer des perspectives d'avenir à l'ensemble des Calédoniens.
Des discussions politiques auxquelles participera bien sûr le Rassemblement, déclare son président Alcide Ponga, qui en appelle à la responsabilité des élus.
Le Rassemblement a toujours été présent autour de la table, hein. Que ce soit les bilatérales, les trilatérales. Demain, on sera encore présent autour de la table parce qu'il faut avancer pour les Calédoniens. Vous avez des élus qui sont en responsabilité aujourd'hui et donc c'est aux élus qui sont en responsabilité aujourd'hui d'assumer ces responsabilités issues des élections qui se sont tenues en 2019. C'est à eux de discuter et de trouver la solution pour la Nouvelle-Calédonie.
Et après ce rendez-vous, le ministre des Outre-mer a déjeuné avec le comité Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Il a ensuite rencontré la délégation du groupe UCFLNKS qui était venue chercher des éléments sur le report des élections provinciales sur lequel les élus du Congrès doivent donner un avis la semaine prochaine. Et à l'issue de cet entretien, Pierre-Chanel Tutugoro s'est dit satisfait.
On a ces éléments. Le premier des éléments, c'est que le processus de décolonisation est un processus qui est constitutionnalisé, donc toujours en cours. Ce qui nous permet de dire que le temps du report, c'est le temps aussi qui va nous permettre d'engager des discussions. C'est une discussion pour nous, pour faire aboutir notre projet, c'est ce qu'on a annoncé, et surtout pour répondre favorablement aux aspirations des Calédoniens qui se sont prononcées lors des dernières élections législatives.
Le groupe UCFLNKS réaffirme par ailleurs que sa priorité, c'est l'aboutissement de sa trajectoire vers la pleine souveraineté. Il ajoute qu'avant de définir un calendrier de reprise des discussions, il attend les différentes missions qui doivent venir sur le territoire Outre Pierre Chanel Tutugoro, la délégation UCF-LNKS était composée de Pascal Sawa, d'Henriette Mahé, d'Alozio Sacco et de Sylvain Pabouti. François-Noël Buffet qui a ensuite reçu l'autre groupe indépendantiste du Congrès, le groupe UNI, une délégation conduite par Jean-Pierre Jaïwe qui estime que le temps presse pour trouver un accord afin de pouvoir organiser les élections provinciales d'ici la fin de l'année prochaine. L'UNI qui est prête à reprendre les discussions avec les partenaires calédoniens et l'État et militera pour son projet d'indépendance association.
C'est bien de reconstruire le pays, mais il faut reconstruire le pays sur du solide. Et le solide, c'est le statut de l'avenir de notre pays. Ça, c'est important. Il y a le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui viendront. Et c'est à ce moment-là que les sujets pourront être discutés. Comment on fait pour reprendre les discussions? Nous, on lui a dit que pour ce qui nous concerne ici entre nous, partenaires calédoniens, on a eu toute l'année 2023 où on a discuté, on a fait des négociations soit ici, soit à Paris. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels, entre nous calédoniens, on a trouvé des points d'équilibre. Donc on ne partira pas de zéro. On est partant pour que l'on reprenne les discussions le plus rapidement possible, parce qu'il y a le temps de réécrire ce projet d'accord politique en texte de loi, etc., etc. Ça va prendre du temps, donc ça veut dire que d'ici le mois de mars, il faut qu'on se mette autour de la table et trouver un accord, absolument.
La délégation était composée de Jean-Pierre Jaïwe, d'Adolphe Digoué, de Charles Wachétine, de Judicaël Sélefen, de Victor Tutugoro ou encore de Nadia Eo.
Et le ministre reçoit en ce moment la délégation du groupe Calédonie Ensemble et recevra les élus de l'éveil océanien à 20h. C'est demain que le ministre des Outre-mer achève sa visite de 4 jours, entamée mercredi matin. Dès 8h, il sera au Médipôle pour une visite du centre hospitalier, des échanges avec le personnel soignant. François-Noël Buffet quittera demain soir la Nouvelle-Calédonie. À la fois serein, confiant, mais malgré tout préoccupé. C'est l'état d'esprit du ministre des Outre-mer qui était ce matin dans les studios de Radio Rythme Bleu. François-Noël Buffet a dressé un premier point de situation et il nous a fait part de son analyse. Il était notre invité du matin à 7h30, Nicolas.
Oui, il faut éviter que la Nouvelle-Calédonie ne bascule. C'est l'une des mises en garde que l'on retient de cet entretien avec François-Noël Buffet. 5 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles, le ministre des Outre-mer parle d'une situation extrêmement préoccupante, pour ne pas dire extrêmement grave. Il rappelle que face à la gravité de la situation, l'État est intervenu en apportant une aide d'urgence et il va continuer à accompagner la Nouvelle-Calédonie, affirme le ministre des Outre-mer. Il évoque les annonces qu'il a faites hier, mais reste plus prudent sur les aides aux entreprises, notamment pour la prolongation du chômage partiel. Il indique par ailleurs qu'il invitera les assurances dès la semaine prochaine au ministère pour essayer de débloquer la situation. Plus globalement, le ministre pose comme principe l'efficacité et il affirme qu'il n'est pas un marchand de rêve. Interrogé sur le PS2R du gouvernement, François-Noël Buffet déclare que l'État est très intéressé par ce qui se passe et qu'il l'accompagnera. Pour lui, il ne faut pas opposer le plan du gouvernement et celui du Congrès, et l'État doit être le tiers de confiance.
La gravité de la situation est telle qu'il va falloir conjuguer les énergies là-dessus. Et s'il y a moyen de le faire, le gouvernement sera un facilitateur. Je souhaite que nous soyons un tiers de confiance dans cette situation-là. L'État doit être le tiers de confiance, celui qui honore sa signature et ses engagements, mais celui à qui on peut tout dire et celui qui, peut-être, le moment venu, sera amené à rendre des arbitrages. Mais vraiment, c'est ça l'enjeu. J'insiste vraiment pour vos auditeurs et pour tous les Calédoniens qu'il faut avoir conscience que le moment est exceptionnel. Exceptionnel parce que soit on est capable de, je dis bien on, de se regrouper, de faire une sorte de pacte, si on parlait en termes de rugby, pour pas que ça bascule. Le risque est que la Nouvelle-Calédonie bascule dans une situation économique et sociale extrêmement grave, extrêmement difficile, et c'est tout ce qu'il faut éviter, bien évidemment.
François-Noël Buffet se dit aussi très préoccupé par la situation dramatique de la filière nickel. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'elle puisse s'arrêter, dit-il, en appelant à travailler à un plan de reprise. Mais en évoquant le refus du pacte nickel, il lance aussi une mise en garde.
Je dis attention, attention, quand on a des engagements de l'État ou d'entreprises qui veulent venir, qui veulent relancer la machine, il faut bien sûr travailler sérieusement, prendre les sécurités et veiller aux conditions dans lesquelles ça se passe, mais ne traînons pas trop quand même. Il y a un degré d'urgence, donc on sera facilitateur, oui bien sûr.
Interrogé sur l'ordre public et la situation à Saint-Louis, le ministre des Outre-mer rend d'abord hommage aux haut-commissaires et aux forces de l'ordre.
Ils ont fait un travail considérable pour que la paix républicaine revienne. J'insiste sur la notion de paix républicaine. C'est important, nous y sommes presque. Il reste effectivement des points de difficulté que vous venez de soulever. Il faut que cela cesse. Alors nous maintiendrons les moyens et les capacités à pouvoir agir, mais nous sommes rentrés dans un autre processus aujourd'hui, une évolution de la situation. Il faut que cela cesse pour qu'on puisse travailler sereinement et puis surtout que les Calédoniens puissent se déplacer sereinement. Enfin, il n'est pas concevable qu'une telle situation puisse durer. Elle a été exceptionnellement violente. Et je pèse mes mots, elle est aujourd'hui ponctuellement violente. Il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Et en tous les cas, l'État, de ce point de vue-là, assurera les siennes très clairement.
Et concernant la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel, François-Noël Buffet affirme sa volonté de renouer le dialogue. Il ajoute que le report des élections provinciales donnera à cet égard un temps précieux pour discuter. Et nous lui avons demandé si ce report avait été décidé pour des raisons pratiques ou pour des raisons politiques, parce qu'il faut auparavant dégeler le corps électoral.
C'est un peu les deux à la fois, parce que vous savez que toute décision qui consiste à reporter les élections entraîne des périodes administratives de préparation qui sont très importantes. Donc aujourd'hui, ce sera un peu juste. Et puis surtout, c'est peut-être pas tout à fait le moment, alors qu'on doit se consacrer urgemment au développement économique et à la relance de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le troisième élément que je rajouterais, et il faut le dire, c'est un élément de tension qui était réel sur le territoire, qui probablement a été en grande partie à l'origine de ce qui s'est passé au mois de mai dernier. Il faut bien le constater. Donc essayer de construire quelque chose, c'est aussi essayer d'apaiser les relations. Et donc la volonté de reporter participe de cet apaisement et de recréer des conditions d'un dialogue et de consultation. Une fois de plus, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. La patience n'est pas de la faiblesse. Il ne faut pas confondre. Et nous pouvons être patients, mais pas faibles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra bien qu'on arrive à une solution. Voilà, dans un délai qui soit raisonnable.
La patience n'est pas de la faiblesse, mais il va falloir ajuster le corps électoral, précise le ministre.
Le Premier ministre a dit que, évidemment, la discussion serait ouverte. J'insiste beaucoup sur un élément qui est que nous sommes dans un état de droit et que le Conseil d'État, au mois de mars dernier, a fixé des règles en disant les élections provinciales, bien sûr, auront lieu, peuvent être reportées. Attention, vous avez un sujet sur le corps électoral. Donc la question, elle n'est pas sur le principe même, elle est sur les conditions et sur la manière dont on va pouvoir aborder cet ajustement électoral. Et donc, ça va faire partie des discussions. Et puis, on va essayer d'ajuster les choses pour qu'on soit, si je puis me permettre cette expression un peu directe, juridiquement dans les clous.
François-Noël Buffet nous a aussi précisé que la mission interministérielle sera consacrée exclusivement à la Nouvelle-Calédonie et qu'elle sera rattachée au Premier ministre et au ministre des Outre-mer. Il indique par ailleurs que c'est bien le Premier ministre qui suit l'ensemble des dossiers ultramarins et singulièrement celui de la Nouvelle-Calédonie.
Une interview de François-Noël Buffet disponible en audio et vidéo sur le site internet de RRB. Également, durant son séjour, François-Noël Buffet a signé la circulaire dite de reconstruction. Elle est adressée au commissaire et elle a pour objectif de définir la mise en œuvre de l'accompagnement des collectivités pour la remise en état et ou la reconstruction des biens publics locaux dégradés ou détruits lors des violences survenues depuis le 13 mai dernier. Un guichet unique sera mis en place afin de recenser les besoins et d'accompagner les collectivités concernées. Les collectivités devront, en tout état de cause, mobiliser en premier lieu les contrats d'assurance souscrits pour se couvrir contre les dommages aux biens. S'agissant des établissements scolaires, l'État financera intégralement le reste à charge des collectivités après intervention des assurances. Les collectivités et groupements ont jusqu'au 17 novembre 2024 pour adresser au Haut Commissariat les demandes de subventions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous rassuré par les mesures financières annoncées par le ministre des Outre-mer pour venir en aide à la Nouvelle-Calédonie? Si ces annonces vous rassurent, vous tapez 1. Si elles ne vous rassurent pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, alors que l'événement Sotec So Good se tenait ces derniers jours à Nouméa, 52% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les start-up calédoniennes ont un rôle à jouer dans la refondation de l'économie calédonienne. Ils sont 48% à être d'un avis contraire. Politique toujours, c'est Naya Wateu, élue Les Loyalistes à la province sud et au Congrès, qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Nicolas.
Oui, et elle faisait partie de la délégation qui avait été reçue peu avant par le ministre des Outre-mer. Elle est d'ailleurs revenue sur cette visite de François-Noël Buffet, sur les annonces qu'il a faites et sur les messages que les loyalistes lui ont transmis.
C'était déjà dans un premier temps de faire entendre la voix des Calédoniens qui pour certains se sentent encore abandonnés. C'était important de rappeler la violence qu'il y a eu le soir de ce 13 mai et les semaines qui ont suivi et pour beaucoup ce sentiment de ne pas avoir eu de réponse de la part de l'État. Important aussi pour nous de rappeler que les interlocuteurs étaient essentiels, notamment pour pouvoir sortir de cette crise que l'on rencontre. Donc la question de la sécurité était bien évidemment essentielle et puis parce que là aussi c'est cette réalité qui s'impose maintenant à nous, c'est cette crise économique que l'on rencontre. Et derrière les perspectives qu'il est essentiel de pouvoir apporter aux Calédoniens. Et en ce sens, l'accompagnement de la France et le soutien de la France est essentiel dans cette démarche.
Naya Wateo, qui était au début du mois à New York, où elle est intervenue devant la 4e commission de l'ONU, elle déclare avoir voulu porter un message de vérité, mais elle s'étonne de la composition de la délégation indépendantiste qui ne comportait pas d'élus calédoniens.
Sur la composition, donc on a bien vu des prises de parole au nom de Inat Nekanaki, donc qui est la dissidence du Sénat coutumier, deux représentants du Sénat coutumier, mais on sent bien que c'est un peu la tranche dissidente du Sénat, mais qui n'a pas encore vraiment basculé, l'avocat du Sénat coutumier qui prend la parole, et puis derrière des interventions faites par des élus outre-mer qu'on a identifiés aussi, parce que ce qu'on voit surtout émerger, c'est cette intégration dans les discussions de ce groupe d'initiative de Bakou, avec là aussi des prises de parole de la Guyane, de la Martinique. Quand on sait aujourd'hui ce qui se passe en Martinique notamment, c'est inquiétant.
Mais selon Naya Wateo, il est important que les partisans de la France s'expriment à la tribune de l'ONU parce que cela finit par avoir de l'influence auprès des Nations Unies.
Nous, on y va avec ce discours de vérité. Eux, ils vont avec un discours qui est très victimaire et qu'on considère comme étant mensonger à certains niveaux et notamment au regard des actions que peut entreprendre la France pour protéger les Calédoniens. Mais c'est important que les choses soient aussi remises dans leur contexte. Et ce travail aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il aboutit parce que derrière, je le vois au travers de ces résolutions qui tendent à expliquer la réalité, c'est-à-dire que le processus de décolonisation se passe, que décolonisation ne veut pas dire indépendance et que cette décision, elle incombe avant tout aux Calédoniens et que par trois fois cette décision, ils l'ont prise.
Dans un tout autre domaine, l'élu de la province sud, qui est aussi présidente du SMTU, a été interrogée sur les difficultés du réseau de transport en commun. L'occasion aussi d'évoquer l'augmentation du prix du billet qui a fait débat.
La question c'est, on veut continuer à avoir des bus qui roulent ou pas? Parce que c'est la réalité dans laquelle on se trouve. Je pense qu'il y a un travail qu'on n'a pas fait auparavant sur la question du prix du ticket. Et de rappeler aux gens que le ticket moyen qu'ils avaient avant 13 mai, le prix du ticket à 350 francs, pour 70% de ce prix-là, c'était les collectivités qui le payaient. Les 30% restants, c'était les usagers. Aujourd'hui, les collectivités, elles ne peuvent plus payer. Et pourtant, elles font l'effort de continuer à en prendre 50% à leur charge. Donc oui, effectivement, on demande cette contribution supplémentaire aux usagers, mais parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait qu'on essaie encore d'avoir des bus qui circulent. Je rappelle que cette mesure, elle est transitoire, elle doit nous permettre derrière de continuer à assurer un service minimum, mais que derrière, il va falloir, on est déjà en train de le faire, de réfléchir au réseau qu'on va devoir mettre en place, futur réseau, dès février 2025.
Et Naya Wateo évoque l'éventualité de la mutualisation du transport en commun calédonien. Une interview qui sera rediffusée en intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Nicolas. 18h05, nous clôturons notre page consacrée au ministre chargé des Outre-mer et nous verrons après la pub le reste de l'actualité sur le territoire.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Salut voisin! Mais pourquoi tu tondes ta pelouse avec ça?
Ma tondeuse marche plus. Alors pour trouver un réparateur pas trop loin d'ici, de confiance et pas trop cher, c'est galère. Hein.
Non mais bon, de là à tondre ta pelouse avec des ciseaux...
Avec Bonus Répare, remettre en état ses outils de jardin thermique, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et du côté des faits divers, la nuit a été agitée à Marée. Plusieurs bâtiments ont été dégradés aux alentours de la tribu de la Roche. Le bâtiment de l'aire coutumière a été en partie détruit et tagué. Le portail d'accès à la mairie a été fracturé et le compteur électrique détruit. Le chantier de construction de la future chambre mortuaire a lui aussi été saccagé. Trois individus cagoulés ont été aperçus aux alentours des lieux ciblés, mais aucune personne n'a pour le moment été interpellée. Une enquête est en cours. Des incendies ont aussi été signalés à Coumac. Un feu de brousse a démarré à côté de la ferme photovoltaïque aux alentours de 14h15. Heureusement, aucune infrastructure n'est menacée grâce à l'intervention des pompiers d'un hélicoptère bombardier d'eau. Ils sont toujours en intervention. Un incendie également à Conné. Un feu de forêt a démarré vers 14h30 près du lotissement de l'internat et a depuis été maîtrisé.
RMB 18h07.
Une suspension à titre conservatoire pour Mathias Chocha. C'est la suite de la procédure qui avait été lancée au début du mois après des propos tenus lors du conseil d'administration et sur les réseaux sociaux, Nicolas.
Oui, le professeur justifiait la tentative d'incendie d'un bâtiment de l'UNC à Nouville et mettait en cause directement un autre professeur. Il était aussi reproché à Mathias Chocha de faire œuvre de propagande politique durant ses cours au lieu d'enseigner sa matière. Une enquête de l'inspection générale de l'enseignement supérieur a donc été ouverte. En attendant, Mathias Chocha a été suspendu de toutes ses fonctions et responsabilités de manière conservatoire, et ce pour une durée de 4 mois, une suspension qui peut être prolongée dans la limite globale d'un an. Dans un communiqué, l'UNC déclare que cette suspension donne le temps à l'université ainsi qu'au service judiciaire de recueillir l'ensemble des éléments et de mener le cas échéant des poursuites disciplinaires ou pénales qui seules sont à même de donner lieu à des sanctions définitives. Fin de citation. Les loyalistes et le rassemblement ont réagi également par voie de communiqué et parlent d'une sanction dérisoire malgré des faits graves.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Après 5 mois d'arrêt total, le tourisme reprend sur les îles. Un premier navire australien, le National Geographic Orient, a accosté à Lifou ce matin. Jusqu'à 14h, une centaine de visiteurs ont pu découvrir l'île et ses spécialités. Cette reprise des croisières était très attendue. Elle fait suite à de nombreuses discussions engagées entre les chefferies de Wedge, le gouvernement et les compagnies de croisières australiennes. Des échanges qui ont débuté en juillet et auxquels a pris part Élodie Jaunet, directrice de l'agence Quénois. Une société qui gère toute la logistique des bateaux de croisière sur la Grande Terre et les îles. Elle était à Lifou ce matin pour constater les fruits de ces longs mois de démarches pour assurer la reprise des croisières.
Avant tout, on s'est d'abord rapproché de Lifou, du Wedge, parce qu'on savait que ça allait prendre un petit peu de temps de faire des démarches, notamment pour la réouverture. Donc il y a un gros travail qui est fait surtout de Wedge, qui accueille les croisières à Lifou. Il y a un gros travail de terrain du comité du développement du Wedge avec les chefferies. Ils vont dans les tribus, ils informent et puis surtout, ils veulent garantir que tout se passera bien. Au niveau de l'accueil des touristes, je vois aujourd'hui à Lifou, les gens sont très heureux de retrouver une activité sur le site d'accueil. On a des sourires partout et je pense que ça sera pareil à Nouméa. Les gens seront contents de penser à autre chose et puis il faut avancer de toute façon.
Également présente sur place, l'agence Nouvelle-Calédonie Tourisme qui promeut le tourisme en Nouvelle-Calédonie à l'international. Philippe Artigue, directeur marketing et communication à NCT, explique que l'agence est entrée dans une phase de réassurance. L'objectif, créer du lien avec les voyageurs en postant du contenu attractif pour les potentiels touristes.
Notre but en ce moment, c'est justement de restaurer la confiance des voyageurs et des tours opérateurs étrangers. Et pour ça, la croisière, c'est un bon symbole. Donc, on multiplie en fait la création de contenus attractifs et qui montre l'activité touristique qui se maintient, qui redémarre et même qui évolue. Et donc là, on a pu accompagner les festivités, filmer les excursions avec les croisiéristes mis en place par Wedge Tour et interviewer aussi le capitaine du navire. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va monter, relayer sur nos réseaux, nos plateformes, et pour largement le diffuser à l'étranger. Ce qu'on note, c'est surtout un véritable enthousiasme de la part des croisiéristes qui sont contents de découvrir cette destination, mais on a aussi senti une véritable impatience et l'envie de bien faire de la part des prestataires locaux qui se sont mobilisés, pliés en quatre, pour offrir le meilleur accueil possible à ces voyageurs. Tout ça, c'est vraiment le redémarrage de tout un secteur.
Une reprise des croisières qui se fait donc graduellement sur le territoire. À Lifou, un autre navire de 200 passagers est prévu pour le 1er novembre, puis le 13 novembre. C'est le Westerdam, un bateau de 2000 croisiéristes qui devrait accoster. Et puis la capitale devrait revoir venir les étrangers courant novembre, sous réserve du maintien des conditions de sécurité sur le territoire. Débutons notre programme festif avec tout d'abord la fête de la science qui a démarré aujourd'hui. Le thème cette année est Océan de savoir. Jusqu'au 28 octobre, de nombreuses activités gratuites sont proposées un peu partout sur le territoire. La fête a débuté ce matin avec une visite des locaux de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Demain, il sera possible de 8h à midi et de 13h à 19h de découvrir les coraux à la Maison de la biodiversité. Ce dimanche, vous pourrez vous rendre à Lansvata de 8h à midi pour rencontrer des chercheurs et parler de la biodiversité océanique. Le tout en compagnie de l'ambassadeur de la fête, le champion du monde de stand-up paddle Titouan Pouillot. Le programme complet est à retrouver sur le site internet du Cressica. Direction maintenant le parc Brunelet à Nouméa où se déroulera tout le week-end de 8h à 17h la 9e édition du salon Nature, Maison et Déco. Plus de 110 exposants proposeront aux visiteurs de nouvelles idées pour aménager la maison, le jardin, sans oublier les astuces et produits bien-être. Les précisions de Laura Nourtier, co-gérante de la société Action Pub NC.
L'objectif, c'est de refaire un peu d'événements, de venir rencontrer nos professionnels et partager aussi un bon moment, un bon week-end avec plus de 110 exposants. Donc on aura beaucoup de professionnels différents. Donc la base du Salon Nature, c'est bien sûr tout ce qui est jardinerie, horticulture, pépinerie, quincaillerie et tout ça. Et après, donc on a plus la partie maison, décoration, aménagement extérieur, intérieur, mais aussi beaucoup d'artisanat d'art local.
On notera également d'autres rendez-vous ce week-end de 10h30 à midi. Les visiteurs pourront découvrir le concept de ville et d'urbanisme à travers les jeux vidéo. Un rendez-vous à ne pas manquer demain à la Maison Higginson. Et pour associer sortie et santé, les Calédoniens pourront se rendre demain de 13h à 17h au Jardin des Parents à Nouméa pour la clôture de la semaine de l'allaitement. Le matin, c'est le magasin Kiabi au Dumbé à Molle qui proposera des activités prévention contre le cancer à l'occasion d'Octobre Rose. Enfin, ce dimanche, les amateurs de glisse pourront se retrouver à Païta, au skatepark près de l'arène, pour une journée dédiée à la fameuse planche à roulettes. Des initiations gratuites seront proposées de 9h à midi par le club Tropical Shredder. 18h14, on va marquer une deuxième et dernière pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Effectivement, ouvrons notre programme sport du week-end avec du football et la reprise de la Ligue 1 ce week-end après la trêve internationale, Nicolas.
Oui, et demain en ouverture de la 8e journée, Monaco accueille Lille. Début de la rencontre à 5h45. Dans la nuit de demain à dimanche, Brest recevra Rennes et Lens se déplacera dans le chaudron de Saint-Étienne. Dimanche matin, le PSG jouera contre Strasbourg et puis dans la nuit de dimanche à lundi, Lyon jouera à Auxerre, au Havre. Auxerre affrontera Reims. Antoine Comboiré et Nantes reçoivent Nice et Toulouse sera opposé à Angers. Enfin, pour clôturer cette 8e journée de Ligue 1, Marseille se déplacera sur la pelouse de Montpellier.
Du rugby en métropole aussi avec la 7e journée de Top 14.
Oui, demain soir, c'est l'Aviron Bayonnais qui ouvre le bal face au Racing 92. 4 matchs sont ensuite programmés dans la nuit de demain à dimanche. Clermont-Vannes, Castres-Olympique, Stade Français, Toulon-Montpellier et l'USAP contre le Loup. Dimanche matin, la section paloise reçoit le Stade Toulousain et enfin lundi matin, choc au sommet entre le Stade Rochelet et l'UBB.
Les sports automobiles et le retour de la Formule 1 ce week-end.
Oui, les pilotes seront aux États-Unis sur le circuit des Amériques. Au Texas, Max Verstappen reste sur 3 victoires consécutives aux États-Unis. L'an dernier, sur la course sprint, Pierre Gasly avait terminé 6e. Esteban Ocon, lui, avait dû abandonner dès le 6e tour. Rendez-vous donc dimanche matin à 5h pour la course sprint et puis lundi matin à 6h pour la course principale. principal.
Et du rallye aussi, mais en Europe cette fois.
Oui, Sébastien Ogier, au volant de sa Toyota, mène les débats après les premières spéciales disputées en République tchèque. Il devance Thierry Neuville de moins d'une seconde. Le Belge qui pourrait donc remporter son premier titre de champion du monde.
Et on passe des 4 roues aux 2 roues avec de la moto.
Ouais, les pilotes sont dans le Pacifique au Grand Prix d'Australie sur le circuit de Phillip Island. Le départ de la course sprint sera donné à 15h demain. La course principale est prévue pour dimanche à 14h. On rappelle tout de même que l'an dernier, c'est un Français qui s'était imposé. Johan Zarco avait remporté sa toute première victoire dans la catégorie reine. Fabio Quartararo avait terminé 14e.
En tennis maintenant, pas de tournoi majeur ce week-end, mais on suivra le Calédonien Maxime Chazal.
Oui, il est engagé sur le Challenger de Saint-Brieuc et à défaut de briller en simple, performe en double. Il dispute ce soir la demi-finale avec le Syrien Azem Nao. À 19h, ils seront opposés à une paire 100% française composée de Geoffrey Blancano et de Gabriel Debru.
Et on en vient à l'actualité sportive. Sur le territoire, il y a du football dans le sud, mais aussi dans le nord.
Oui, dans le sud tout d'abord, le trophée du Grand Nouméa continue d'animer les soirées en semaine et les week-ends au Parc des Sports de Coutiot. Demain à 15h45, Melec sera opposé au Wetch. Dans le nord, un nouveau rendez-vous vient de voir le jour, le RCP Cup 2024. Qui réunit l'AS Wattiway, le RC Point-Dimier, Yengen Sport et le PC Poneriouin. Demain à 13h, l'ASW affronte Yengen et à 15h, Point-Dimier jouera contre Poneriouin.
Il y a du rugby aussi à Nouméa.
Oui, avec un tournoi d'Open Touch Rugby qui est effectivement organisé demain par le club de l'Olympique. Ça se passera dès 8h au stade de Sainte-Marie.
Et au receiving, il y aura du tennis mais aussi du padel.
Allez, en tennis d'abord, il y aura des finales du tournoi Senior Plus qui a commencé le week-end dernier. Et en padel, eh bien, un tournoi en lien avec Octobre Rose est organisé par l'association Hop. Ça démarre demain à 11h et puis il y aura un concert le soir, un concert de Richie pour être précis.
En brousse, le rendez-vous des amateurs de course en pleine nature et c'est à Bouraille que ça se passe.
Oui, le trail de Nessadiou s'élancera demain matin à 8h de l'auberge du Pêcheur. Deux parcours sont proposés, 4,5 km et 12,5 km avec 400 mètres de dénivelé positif.
Et sur le territoire, toujours la grande finale du 17e Trophée des Jeunes Marins. C'était aujourd'hui une finale qui s'est déroulée dans des conditions bien plus calmes que prévues, malgré une semaine de vent soutenu. Mais pas de quoi refroidir l'enthousiasme des 24 participants venus des trois provinces. En tout, 6 manches et une course longue distance ont été disputées pour cette édition. Écoutez Jocelyn Dupont, organisateur du Trophée des Jeunes Marins.
La finale s'est très bien déroulée, on a vu du très beau jeu avec des équipages qui étaient vraiment aguerris, des belles manœuvres, hein, beaucoup de suspense hein, et sur la fin c'est l'expérience qui a payé puisque c'est l'équipage de la province nord de Denis qui fait le candidat à son troisième trophée des jeunes marins qui a réussi à gagner sur la régularité.
Et au final, les trois provinces sont représentées sur le podium. On retrouve en première position l'équipage Extrême Nord qui vient de la province Nord, suivi de Niki de la province des Îles et enfin Youngs de la province Sud clôture ce podium. Allez, terminons ce journal avec une bonne nouvelle. Radio Rythme Bleu a fait un nouvel heureux. Dominique, auditrice de Nouméa, a remporté notre grand jeu chance. Son SMS a été tiré au sort et elle a gagné un séjour de 3 nuits en bungalow traditionnel avec petit déjeuner au Sheraton Deva d'une valeur de 153 000 francs. Écoutez sa réaction en apprenant la nouvelle.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bonjour Léana de Radio Rythme Bleu. Je vous appelle parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous jouez souvent sur Radio Rythme Bleu ?
Non, pas souvent, non.
Est-ce que vous avez joué récemment ?
Oui, j'ai joué hier soir.
Hier soir ?
J'ai tenté ma chance hier soir.
Eh bien écoutez, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous avez bien fait de tenter parce qu'en fait, vous avez gagné le séjour au Sheraton Deva.
Oh, c'est super, c'est super. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de jouer. Et du coup, je me suis dit, je tente ma chance et j'ai bien fait.
Qu'est-ce qui vous a décidé hier soir ?
Je sais pas, c'était le bon moment. J'avais le temps d'envoyer le mot chance et puis pourquoi pas, on ne sait jamais. Et aussi, c'était le Sheraton, c'est quand même un beau cadeau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas séjourné au Sheraton. C'est un de nos endroits préférés, justement, parce qu'on est beaucoup pleine nature, donc à vélo ou à pied, et puis le lagon, c'est un endroit magnifique. Au Sheraton, et à vous.
Encore toutes nos félicitations à Dominique qui a remporté ce superbe séjour offert par le Sheraton d'Eva. Restez bien à l'écoute. Dès demain, nous vous proposerons un nouveau jeu chance car vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. 18h21, et un autre cadeau pour nos auditeurs maintenant, l'heure de connaître la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Nicolas, faites-nous un beau cadeau. Quelle va être la météo ?
Alors la météo, tout d'abord cette nuit sera largement étoilée, mais des passages nuageux remonteront sur l'extrême sud, le sud-ouest et les Loyautés en apportant de petites averses. Le vent de sud à sud-est mouillera entre 15 et 20 nœuds aux Loyautés et le nord-est, et entre 10 et 15 nœuds ailleurs, et jusqu'à 5 à 10 nœuds sur l'Est. Pardon. Les températures de la nuit seront comprises entre 18 et 21 degrés, et entre 12 et 14 degrés dans l'intérieur et marée. Demain matin, le soleil s'imposera largement. Au début, une faible averse sera encore possible sur le sud-ouest, l'extrême sud et aux Loyautés. Le vent de secteur sud-est s'établira de 10 à 15 nœuds. Localement sur le nord-ouest, plus de 15 nœuds, il sera faible sur le nord-est, Léana.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.